colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je vais essayer donc de parler des infirmières en 14-18, un sujet banal que tous nos élèves ont connu dans leur livre d'histoire, parce que pour la guerre de 14, ça a été évidemment des femmes qui ont vraiment participé auprès des soldats à la guerre. Alors, c'est intéressant de savoir que Louis Barthou, qui était ministre, a dit vers la fin de la guerre, le sourire de l'infirmière française, je vous prie d'excuser, d'excuser un peu, le sourire de l'infirmière française aura bien servi la défense nationale. Mais je le dis surtout au lendemain de la guerre, il aura bien servi aussi l'unité nationale. Donc dans cette phrase un peu générale, il y a deux aspects qui sont intéressants. C'est d'une part qu'on va voir que les femmes vont découvrir et se former pour un vrai métier, métier d'infirmière, donc même après la guerre. Et d'autre part que ce phénomène des infirmières va réunir des femmes de toutes les classes de la société, plus ou moins bien, mais c'est en ce sens qu'il parle d'union nationale à ce moment-là. Alors, nous sommes un pays qui est un peu en retard de temps en temps, et en fait, avant la guerre de 14, la France s'est pas beaucoup occupée des problèmes de soins en hôpitaux pour les blessés. Il y avait eu un précédent, mais ce n'était pas nous les fondateurs, c'est la guerre de Crimée. Grâce à l'infirmière anglaise dont tout le monde a entendu parler, Florence Nightingale, mais elle est hors de notre territoire, et donc en France, il y a très peu d'aménagements qui sont envisagés. D'ailleurs, c'est même surprenant, après la guerre de 70, on aurait pu penser qu'il y aurait eu des changements. Alors, donc la guerre de 14 arrive, elle arrive sur notre territoire par la bataille de la Marne, particulièrement par la bataille de la Marne en septembre 14, et c'est la catastrophe, personne n'est prêt. D'autre part, on a fermé Paris pour empêcher que les troupes rentrent à Paris, donc on ne peut pas envoyer les blessés, et c'est donc dans la Seine-et-Marne qu'on va essayer d'organiser tant bien que mal avec des femmes de la Croix-Rouge qui ont été créées justement pendant la guerre de Crimée, par Henri Dunant, et donc il va falloir réviser toute une politique de la santé militaire. Cela va être obligatoire, parce qu'on pensait que la guerre se terminait à Noël, bien entendu, elle a duré 4 ans, presque 4 ans, et donc, peu à peu, le système de santé va se transformer. Le nombre de blessés a été d'environ, parce qu'on voit que les chiffres change un peu quand on vérifie suivant les archives, 3 millions environ pendant la Grande Guerre. Donc, les hôpitaux vont s'ouvrir et ils ne sont pas assez nombreux, donc il va y avoir énormément de personnes qui vont offrir leur château, leur maison, ou qui vont être réquisitionnées, même si elles n'en ont pas très envie, et donc sur toute la France, il y a véritablement une quantité d'hôpitaux dont je ne donnerai pas les noms parce que chacun a ses noms particuliers. Il y a les hôpitaux auxiliaires, etc. Voilà. Alors, donc, pour présenter un peu comment, quand même, Florence Nightingale a eu une influence en France, il faut savoir, donc, pendant la guerre de Crimée, 1853-1856, en fait, c'est une coalition de la Grande-Bretagne, de la France et de la Turquie, empire ottoman à cette époque, qui va donc se créer contre la Russie, qui cherche à étendre son territoire. Vous voyez que les choses ne changent pas toujours suivant les siècles. Alors, des Anglaises, et à leur tête, Florence Nightingale, va s'inquiéter de l'abandon des blessés. Ils sont très nombreux au siège de Sébastopol, et les hôpitaux mis rapidement à leur disposition dans un tel état de saleté et de manque de médecins et de peu de médicaments que les gens, les blessés, meurent plus à l'hôpital qu'à l'extérieur. Alors, elle obtient de pouvoir s'embarquer avec une petite équipe pour les soigner. Donc on va l'appeler en France le rossignol, du nom de son nom de famille, et les blessés vont l'appeler la dame à la lampe, car elle va créer un système de soins particulier parce qu'elle a pitié de ces gens-là, et c'est-à-dire qu'on va travailler 24 heures sur 24. Il y aura des équipes qui iront de nuit, donc avec une lampe, auprès de chaque blessé pour essayer de les réconforter, de les soigner s'il le faut, et donc elle fait une action nouvelle et extrêmement importante. Elle va être décorée par le fondateur de la Croix-Rouge, qui est présent sur le front, Henri Dunant, en raison des résultats de ses soins. À son retour en Angleterre, elle va... Oui, une question ? Non. À son retour, elle est donc admirée des Anglais, mais aussi, elle va avoir une très grosse influence dans tout l'Empire britannique. Et on va voir que, bien, un peu avant nous, bien que certaines femmes chez nous vont commencer aussi à se poser des questions, cette façon de procéder et surtout la fondation d'écoles d'infirmières vont se répandre pratiquement dans tout l'Empire anglais et également dans d'autres pays. Alors, en France, qui a pensé que cette initiative était intéressante? C'est donc une personne qui s'appelle Léonie Chaptal et qui, en 1902, va s'intéresser à l'organisation des hôpitaux et surtout d'une formation d'infirmières. Elle crée dans son quartier à Paris, 14e arrondissement, un centre social, alors d'aide à la population, mais évidemment, nous sommes à une période où il y a une population qui ne mange pas sa faim, qui est malade, et il faut donc s'occuper aussi de leur santé. Elle va faire deux sortes d'études, en fait. Elle va passer des examens d'institutrice, et en même temps, elle va suivre les cours de la salpêtrière pour connaître et apprendre à soigner des blessés. Alors, en 1910 seulement, elle va aller en Angleterre, elle rencontre Florence Nightingale, elle découvre ses écoles, ses dispensaires, les règlements qui sont obligatoires pour que ces infirmières répondent à tous les soins qu'on leur demande, et elle va rentrer en France pour davantage former donc ces écoles. Elle se spécialisera surtout dans la tuberculose, qui va être le mal de la France juste après la guerre de 14, et la santé des enfants dont on s'occupait pas tellement à cette époque. En 1913, elle va même être nommée au Conseil supérieur de l'hygiène et de l'assistance publique en France, donc ce qui va l'ouvrir évidemment un domaine important. La guerre de 14 arrive, la longueur de la guerre, les horreurs des tranchées vont obliger à appeler les hommes qui étaient des infirmiers, ceux qui étaient infirmiers, sont obligés de partir au front, donc il faut des femmes et les former. Alors, il y a un mouvement extraordinaire de propagande. Il faut penser que la France, on oublie toujours qu'en 14, elle est enfermée. Hein. Le Nord est séparé et la France ne vit que sur les nouvelles qu'on lui donne, souvent fausses par les journaux ou transformées, ou alors de la propagande pour soutenir les soldats. Ça, c'est le principal. Donc, cette propagande va se faire même dans les écoles. Car il ne faut pas oublier que les enfants vont être mis à contribution pendant toute la guerre de 14 pour pousser leurs parents, soit à payer les emprunts, soit à aider au point de vue infirmière ou visiteuse des blessés. Alors, il va y avoir un mouvement très important, un engouement de toutes les classes de la société, particulièrement des classes aristocratiques qui possèdent des châteaux, ou bien même des artistes, et qui viendront aider dans les hôpitaux parisiens où elles commenceront à aider comme infirmières, puis très souvent elles vont aider à préparer des fêtes pour ces blessés où elles viendront chanter, et là il y a vraiment une grosse aide de ces personnes. Alors les châteaux, il y en a plein autour de Paris, il y en a bien au sud aussi, et ils vont être soit réquisitionnés, soit offerts, et ça les femmes ont bien compris que si elles offraient leur château, elles y auraient au moins leur place. Et effectivement, très souvent, elles viennent à la tête de l'hôpital dans le château qu'elles ont prêté. Alors, malheureusement, tous ces personnages qui se font reconnaître vont, comme dit la duchesse d'Uzès, très vite la figuration s'estompe. Alors, il y avait tout de même dans les hôpitaux, jusqu'en 1905, des religieuses. La loi donc, de la laïcité ne leur a pas permis de rester, ou tout au moins de rester sans leur congrégation et sans leur costume. Et voilà que certaines sont parties, elles vont revenir. Il va y avoir 10 000 religieuses hospitalières qui reviennent et certaines reprennent leur costume, on le voit sur les cartes postales ou dans les journaux. Trois associations se mettent en place sous l'égide de la Croix-Rouge, l'Union des femmes de France, l'Association des femmes françaises et l'Association de secours aux blessés. L'Association de secours aux blessés d'origine plutôt catholique, l'Association des femmes françaises plutôt protestante et l'Union des femmes de France, disons, à tendance plutôt féministe, comme on disait à l'époque, ou de gauche. Alors, très vite, on est obligé de prévoir un uniforme. Les distinctions sont un peu différentes pour justement séparer les différentes associations. Et bleu marine avec le voile blanc. Il va y avoir donc dans ces infirmières deux types d'infirmières. Des infirmières salariées qui sont dès le départ et qui étaient déjà même avant, dont 320 000 infirmières salariées s'ajoutent au cours de la guerre et environ 70 000 bénévoles, c'est-à-dire jeunes filles, femmes, car il faut se rappeler que les jeunes filles, les filles, la classe se terminait à 13 ans. Donc, beaucoup de lycées ne recevaient pas ces jeunes filles. Eh bien, très souvent, j'ai eu des exemples et des photos de jeunes filles très jeunes qui allaient aider dans les hôpitaux, non pas pour soigner, mais pour lire ou pour accompagner les malades pour se promener un petit peu. Donc, ces formations vont être courtes, mais et souvent, les médecins militaires vont se plaindre. On a, par exemple, le docteur Léon Maufray, chargé de mission en 1918 pour vérifier les soins en hôpitaux, qui se plaint dans une lettre. Des infirmières nous aident. Il y en a deux sortes. Les infirmières militaires d'expérience, de 25 à 35 ans, dévouées, simples, affectées au service de nuit. Dans la journée, nous sommes assistés par environ une quinzaine de très jeunes infirmières de la Croix-Rouge, mais dès 18 heures, elles rentrent dans leur enclos sous la surveillance d'une espèce de dragon, la femme d'un général de cavalerie, je termine comme ça a été écrit, une chamelle comme il y en a peu. Donc les jeunes qui rentraient comme infirmières étaient effectivement très surveillées car il ne fallait pas qu'elles aient des relations avec leurs blessés ou avec des soldats. On verra que ça n'a pas empêché, bien sûr. Mais enfin, c'était la règle. Alors, quel est leur rôle, finalement, à ces femmes? Leur travail était très dur parce qu'elles doivent agir sur deux plans. D'abord, sur le plan ménager, c'est-à-dire que c'est elles qui font tous les nettoyages et on voit ce que ça peut être dans un hôpital, et à la fois des soins. Donc, des soins sous la direction, bien sûr, des médecins. Alors, il y a deux idées fixes, si on peut dire, pour le médecin et l'infirmière. D'abord, il faut guérir les infections, car en 14, quand nous avons ramené les blessés, il y en a eu beaucoup qui sont morts uniquement parce que les blessures n'étaient pas, on ne savait pas les soigner, on ne savait pas les désinfecter. Et puis, deuxième point, surtout les remèdes d'aplomb pour les renvoyer au combat. Et ça, ça a été mais ça a été une instruction qui a été écrite en 1915 et donc qui montre qu'il faut donc on appelle les infirmières justement parce qu'on leur reproche d'être des cageuses, c'est-à-dire qu'elles soignent tellement bien leurs blessés, c'est qu'ils n'ont plus envie de partir. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de blessés qui sont partis deux fois à la suite de deux blessures successives, et il y en a même eu trois fois. Donc, on n'avait pas beaucoup de pitié. Ils n'avaient pas le temps de revenir en permission chez eux, bien souvent. Alors, donc, on a quelques écrits d'infirmières, elles n'avaient pas tellement le temps, donc elles ont écrit plutôt après. Et l'une d'elles, dont j'ai connu la famille, qui était à Vouziers en 1918, et voilà comment elle décrit le 11 novembre 1918, l'armistice, à 11h30, malgré l'annonce de l'armistice, deux officiers allemands avec drapeau blanc sont venus nous prévenir que nos baraquements étaient minés et qu'ils sauteraient à 2h malgré l'armistice. Beaucoup de blessés graves, un baraquement de mourants que nous avons tous souffert. Pas d'eau. Deux soldats allaient en chercher dans les trous d'obus. Donc, sur le front, à la fin de la guerre, évidemment, les femmes, on va voir, viennent de plus en plus soigner, même plus à l'arrière, on les envoie sur le front. Alors, elles ont évidemment des rôles tout à fait différents pendant la guerre. On a, tout le monde connaît, et enfin, on en reparle, Marie Curie, qu'on avait un peu oublié, qui va organiser cette formation de radiologie et qui aura du mal à se faire accepter par les médecins. Mais finalement, on va s'apercevoir qu'on opère beaucoup moins grâce à son travail. Avec les petites curies, c'est-à-dire ces petits groupes, elle obtient des voitures, elle demande aux personnes les plus riches de participer, et elle se déplace directement dans les hôpitaux. Elles apprennent, et ça c'est une nouveauté aussi, c'est qu'elles apprennent, les femmes apprennent de plus en plus à conduire, car il faut remplacer de plus en plus les jeunes hommes, car il en meurt chaque année énormément, évidemment, à la guerre. Alors, elles vont être ambulancières, elles vont même aller donc sur le front dans ce qu'on va appeler les autochires, c'est-à-dire qu'au lieu de ramener les soldats dans un état épouvantable pour les opérer, et quelquefois trop tard, eh bien, on va les opérer pratiquement derrière le front, dans ces voitures qui sont organisées pour ce genre d'opération. Alors, ces infirmières, évidemment, elles vont s'attacher alors aux soldats qu'elles soignent. Beaucoup vont devenir des marraines de guerre et vont les suivre pendant très longtemps. D'autres, alors, vont être aussi utilisées tout à fait différemment par l'armée, c'est-à-dire qu'elles vont, on va leur demander d'espionner, de faire de l'espionnage au service des services, anglais. Donc, surtout en Belgique, tout le monde connaît Edith Cavell, dont on reparle aussi actuellement, Gabrielle Petit, qui payeront de leur vie d'ailleurs ce travail qu'elles auront fait. Et puis en France, on aura Louise de Bétigny, qui va créer un réseau très important depuis sa ville de Lille. Donc, oui, on voit l'infirmière comme étant quelqu'un de bien structuré dans un endroit. Eh bien, on lui redemande quelquefois beaucoup de choses à côté. Alors, comment les soldats les reçoivent? Eh bien, c'est très intéressant, c'est de lire les journaux de tranchées et la presse de cette époque. Car, en fait, les relations des soldats avec leurs infirmières sont généralement très bonnes. Ces hommes qui arrivent dans des situations catastrophiques dans les hôpitaux sont généralement bien accueillis. Et donc, ils vont marquer leur reconnaissance, d'ailleurs dans ces journaux, par des dessins, des poèmes, des lettres, plus tard. Et le soin de ces femmes et leur instinct maternel vont les aider loin de leur famille, car il faut penser que certains ne retourneront pas en permission de toute la guerre. Et avant de repartir au combat. Et ils savent très bien qu'ils sont là que pour un temps, comme le dit l'un d'eux dans la revue du front en avril 17, « Ceux qui guériront vous devront l'allégresse de retourner au combat plus fort qu'avant. Vous leur incarnez la France qui se dresse au drapeau et du drapeau largement déployé au vent. » Voilà. Alors, bien entendu, dans la presse civile, les infirmières sont très souvent dessinées, souvent, la plupart du temps, avec respect, mais quelquefois, si vous avez eu l'occasion de lire La Baïonnette ou Le Rire, au moins, on savait rire à cette époque, c'est extraordinaire même d'ailleurs. Bon. Et on se moque, bien sûr, des mères qui poussent leurs filles à être infirmières parce que, évidemment, elles peuvent trouver un mari. Donc, ça peut être intéressant. Alors, c'est assez moqueur, mais en même temps un respect quand même pour ces femmes. Alors, donc je fais un tableau un peu rapide, et je crois qu'il ne faut pas oublier les infirmières alliées, dont on ne parle pas tellement, parce qu'il faut penser d'où elles venaient, dans des bateaux dont certaines sont mortes en cours de route, hein, il faut savoir, il y a eu quand même les U-boots allemands, les sous-marins, et donc il y a eu, elles avaient le courage quand même de partir, et particulièrement l'Empire britannique nous a fourni énormément d'infirmières. Donc, par exemple, chez les Canadiennes, il y en a 2500 qui partent en France, 5% de Françaises, Canadiennes françaises, et les autres des Anglaises. Elles vont travailler d'abord autour de Paris, puis dans des hôpitaux franco-anglais, et elles vont connaître des infirmières françaises, puis peu à peu d'autres infirmières. Et ça aussi, ça serait très intéressant à étudier, je ne me suis pas encore lancée là-dedans, c'est les relations entre ces infirmières de pays différents, où les règlements ne sont pas les mêmes, les tenues ne sont pas les mêmes, puisque les Canadiennes sont en bleu, les Bluebirds, comme on les appelle, et en plus, les Canadiennes anglaises ont droit à se faire reconnaître comme militaires. Donc, ce qui est tout à fait rare à cette époque et que n'a jamais voulu être accepté en France. Ça a été demandé pourtant souvent. Alors, elles ont eu, bien sûr, il y a eu des Australiennes, des Néo-Zélandaises. Imaginez les voyages à cette époque. Donc, il fallait vraiment un certain courage et puis une occasion, je pense, pour elles, comme on raconte, de deux façons. Venir soigner leurs blessés, bien sûr, et puis de visiter, de sortir de chez elles, car elles sont jeunes, et de visiter un peu le monde. Elles vont aller à Salonique, il y en a même qui iront en Russie. Alors les écoles Nightingale vont fleurir aussi aux États-Unis, et dès la fin 17, de nombreuses infirmières arrivent sur le sol français. On nous parle toujours des grands noms, Gloria Vanderbilt, parce qu'elle avait une fortune considérable, sculptrice, et qui a beaucoup aidé donc pour créer ou donner des subventions aux hôpitaux. Florence Conrad, qu'on avait même envoyé sur le front à Saint-Quentin, et qui raconte comment on lui a dit, ben, vous restez avec les soldats qu'on peut blesser, qu'on ne peut pas emmener. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous leur donnez un calmant, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, elles découvrent aussi quelque chose qui n'a rien à voir, évidemment, avec leur vie dans leur pays. Anne Tracy Morgan, qui s'occupera des régions dévastées, qui resteront, et elles vont rester après la guerre, parce que beaucoup font partie d'associations, et elles vont donc aider par apprendre aux Françaises à soigner à domicile. On va avoir des visiteuses américaines et françaises, et puis pour faire face aussi à cette maladie épouvantable de la tuberculose et la création des sanatoriums. Il faudra donc aussi se préparer à ça. Alors, on aura même des Japonaises, une vingtaine de Japonaises vont venir à Paris poursuivre une formation. J'ai vu que dans ma ville de Fontainebleau, elles étaient même venues dans l'hôpital du château pour voir comment on soignait les blessés. Donc, chaque hôpital va se spécialiser pour soigner ses propres citoyens, mais certains hôpitaux près du front ou dans le centre de la France fonctionnent pour plusieurs pays. Donc, comme je disais, les rencontres ne sont pas toujours faciles, et c'est très amusant de voir une Canadienne nous décrire une infirmière française. Elle trouve qu'elle travaille dans des conditions où l'hôpital est sale pour elle. Et elle écrit carrément dans sa lettre. Bon, alors les choses changent probablement. Et elles n'ont pas non plus ni le même règlement, et elles ne sont pas enfermées de la même façon. Tout à l'heure, j'avais cité celle qui était emmenée avec la femme du général, mais la plupart sont jeunes, donc elles travaillent ou de jour ou de nuit, mais elles sont très encadrées. Les Françaises, comme d'habitude, aiment moins ça, elles seront un peu plus libres. Voilà, alors je vais terminer sur la fin de la guerre, parce que qu'est-ce qu'elles sont devenues finalement? De deux manières. D'abord, il y a eu beaucoup d'infirmières qui ont reçu des décorations. D'abord, il y en a d'abord qui ont péri sous les obus, il ne faut pas oublier. D'autres sur les navires qui venaient ou qui repartaient dans les pays, dont l'une d'elles était une amie d'Edith Cavell, et dont le mari était médecin, et elle est en Belgique, et elle mourra, donc elle périra en revenant des États-Unis où elle est allée demander des subventions pour les hôpitaux belges. Elles reçoivent aussi la Légion d'honneur. Et puis, les pays étrangers, qui ont obtenu d'avoir des infirmières françaises, vont être très reconnaissants aussi. Elles ont des diplômes, certaines, les médailles étrangères, médailles de Malte, médailles italiennes, et certaines en auront à titre posthume pour maladie. Et elles, il ne faut pas oublier qu'elles attrapent, bien entendu, souvent les maladies de leurs soldats blessés, dont en particulier les gaz, chose que j'ai découverte. Je ne savais pas qu'une infirmière pouvait mourir d'être gazée dans un hôpital de l'arrière. Et c'est très bien raconté. C'est-à-dire qu'on enveloppe les gazés dans des draps, une espèce de draps qu'on transporte, et quand on ouvre, évidemment, les gaz sont libérés. Et il y a beaucoup d'infirmières qui sont mortes en soignant des gazés. Elles vont être généralement félicitées et donc beaucoup auront des médailles. Pas toutes. Certaines, on se contentera de leur donner un beau diplôme pour qu'elles mettent dans leur famille et qu'on leur dise « elle a bien aidé la France ». Et j'ai découvert qu'en 1924, une femme féministe, Juliette Adam, ancienne infirmière, va demander des subventions internationales pour faire édifier à Reims un monument que beaucoup ne connaissent pas, parce que même des Rémois, qui maintenant, je crois, enfin a été nettoyé, et qu'on peut voir bien. Et donc, sur ce monument, elle a voulu que soient marqués tous les pays qui avaient été, donc, où il y avait eu des infirmières en France. Alors, je vous lis quand même, c'est très beau ce discours. Donc, il en reste une trace. On parle des monuments aux morts, mais très rarement de ce monument. Alors, et voilà comment elle a fait le discours d'inauguration. Donc, le 11 novembre 24, avec les trois délégations des sociétés de la Croix-Rouge, avec le président de la République, Raymond Poincaré. Au premier coup de canon tiré en Alsace, la mobilisation des infirmières fut immédiate, préparée parce qu'elle était par la Croix-Rouge française, œuvre que nous sommes fiers de saluer ici en la personne de son noble président, le général Pau. On sait ce que les infirmières américaines ont apporté d'aide, donné de soins incessants, de dévouement courageux à nos blessés et aux leurs. L'Angleterre, alliée de la première heure, avait mobilisé les mères, les sœurs de ses fils qui combattaient avec les nôtres. Le Portugal, la Grèce, le Japon, la Serbie, la Roumanie, la Pologne, les Tchèques nous avaient tous envoyé des infirmières. Toutes ont laissé dans le cœur de ceux qui ont survécu à l'horrible hécatombe le noble sentiment de la reconnaissance. Sur terre et sur mer, elles ont partagé les dangers du soldat. Elles ont bravé dans les hôpitaux bombardés et torpillés le feu de l'ennemi, la contagion, l'épuisement. En consolant la douleur, elles ont aidé la victoire. Donc, voilà, je pense que ça a été une très belle inauguration et que ça vaut la peine, effectivement, parce que le monument est très, très beau et très, très marque bien cette vie des infirmières.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons quelques minutes là devant nous pour faire des commentaires, demander des précisions. Allez-y, oui, Monsieur Benoît.
Alors, petite précision, les noms des hôpitaux varient en fonction de l'origine. C'est-à-dire qu'il y a, à côté des hôpitaux militaires qui s'appellent de l'avant, etc., les hôpitaux complémentaires ou les hôpitaux auxiliaires désignent des hôpitaux créés par les sociétés de la Croix-Rouge, dans le premier cas, ou par des particuliers ou des associations diverses. Mais ils ont tous le même rôle. Alors, il y a trois sociétés, effectivement, comme vous l'avez dit, la SSBM, qui est la plus ancienne, etc., et dès avant la guerre de 14, elles interviennent. Et au Maroc, notamment, il y a des détachements de la SSBM pour la guerre à l'époque. Le problème, effectivement, c'est celui des relations entre les hommes et les femmes. On a la compassion va jusqu'à déclencher des élans amoureux que les médecins en particulier combattent, parce qu'il y a des risques toujours, et en particulier avec les blessés indigènes.
Il y a des
mesures très strictes qui sont prises pour éviter que... Et effectivement, des textes disant qu'elles sont prises de compassion excessive, etc. Un exemple, c'est la création d'un hôpital au nord de Bordeaux pour des indigènes, puisqu'on a, de 1915, on a séparé les gens, d'abord des raisons pratiques, notamment de nourriture, d'alimentation.
Et d'autre part, qu'ils n'acceptent pas les femmes qui les soignent.
Oui, oui.
Donc là aussi, il faut donc des hôpitaux spéciaux. Au début, ça a été assez difficile.
Ces questions-là, ça n'a pas empêché de le faire. Ce sont les rapports qui ont été. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, on va créer un hôpital, un médecin est désigné, et il dit « je voudrais des infirmières d'âge canonique ». Donc c'est 40 ans. Un peu après, il réfléchit encore, il dit... un peu après, il dit... les canons de l'Église, c'est pour ça que les bonnes de curé ne peuvent être que d'âge canonique. Donc, il dit peut-être même 45. Et puis finalement, on n'en met pas, parce que comme elles sont obligées de loger dans l'hôpital, ça présente quelques dangers. Sur la place des infirmières, au début de la guerre de 14, on est encore dans la vision ancienne du traitement des blessés, c'est-à-dire que le blessé est évacué vers l'arrière, tel qu'il est. Donc, et parfois, et comme le début de la guerre est quand même une grande pagaille et que les chemins de fer sont encombrés, on envoie quelqu'un du front jusqu'à Bordeaux, il a toutes les chances d'être mort à l'arrivée, ou d'être très handicapé. Avant de changer, il va falloir une année. Là, il y a un rapport d'un médecin virulent qui fait 25 pages où il démonte le système, et on change complètement et on passe à la médecine de l'avant. Et à ce moment-là, on voit les infirmières venir au plus près. Elles ne sont pas sur le front, elles sont au plus près du front pour soigner les blessés le plus tôt possible. Quant à l'histoire des femmes gazées par les émanations que les soldats auraient, je suis très surpris, parce que le taux de perte par les gaz est très faible, très très faible. 0,5% des morts de la guerre de 14 sont tués par les gaz, contrairement à ce qu'on raconte ordinairement. Les gaz, c'est un fantasme. La mort par les gaz, c'est un fantasme. Alors que des gaz émanés d'un corps puissent provoquer la mort, je suis très surpris.
Enfin, je vais m'enseigner. En 15, pardon. Elles ont été décorées, d'ailleurs, ces femmes, parce que...
Parce qu'elles ont soigné des gazés, mais en mourir, ça me paraît très surprenant.
Je pourrais vous envoyer le texte.
Une question qui est peut-être naïve, même sûrement naïve, toute cette mobilisation massive d'infirmières, a-t-elle eu des conséquences ensuite sur le système de santé français ou dans d'autres pays? Est-ce qu'on est revenu au point de départ?
D'abord, ça a été un métier qui a été reconnu, donc première chose, alors qu'avant, au moment de la guerre, on prenait un peu n'importe qui. Donc maintenant, elles sont obligées de se former, elles sortent d'école d'infirmières, elles ont un rôle important. Et puis d'autre part, elles vont... avoir un rôle social. Ce qu'on n'avait pas tellement pensé avant, c'est qu'elles sont très nombreuses. Vous imaginez ce retour d'infirmières dans tous ces pays qui rentrent et qui attendent un poste et on leur dit « Mais madame, mon hôpital, ma clinique, j'ai ce qu'il faut, on n'a pas besoin de vous. » Et c'est ça qui a été terrible pour les Canadiennes. Elles se sont fait entendre beaucoup, mais madame, on est désolé, mais on n'a pas besoin de vous. On a notre hôpital marche, nous, on n'a pas de blessés au Canada. Donc elles se sont... retourner sur le plan social, on leur a demandé beaucoup d'aller dans les quartiers et de faire de la l'assistante sociale. Oui. Voilà, elles se sont un peu transformées en assistante sociale à ce moment-là.
C'est intéressant. Il y a des études là-dessus.
Quelques-unes que j'ai retrouvées à la bibliothèque de la vie sociale à Paris, mais pas énormément de choses.
Il y a la thèse d'Annie Fourcault sur les surintendantes d'usine et la manière dont les surintendantes d'usine vont aussi finalement être l'embryon d'une profession d'assistante sociale. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, comme disait Chantal Anty à l'instant, c'est comme la guerre est un processus de professionnalisation de toute une série de métiers, que des femmes qui étaient là comme bénévoles, comme charitables, comme avec une essentialisation finalement de leur fonction. C'est-à-dire que le seul moyen que les femmes puissent être là, c'est parce que naturellement elles sont dévouées, prêtes à sacrifier. Et il y a un basculement au cours de la guerre vers une professionnalisation du métier d'infirmière, du métier d'assistante sociale, du métier de secrétaire. Le ministère des Armées en 19 crée, c'est la première fois qu'il y a des femmes dans la fonction publique, c'est au ministère des Armées comme secrétaire. Alors à côté de ça, il y en a beaucoup qui sont renvoyées, on va dire, dans leur fourneau, parce qu'ils n'ont pas besoin de cette masse, mais en même temps, les statuts sont créés vraiment au sortir de la Première Guerre.
Avant la guerre, les infirmières sont formées par les trois associations de la Croix-Rouge. Elles ont des cycles annuels de formation avec des programmes, et ce sont des diplômes délivrés par ces associations. Il n'y a pas de diplôme national.
Non.
Ça n'existe pas. C'est dès qu'après la guerre que ça va intervenir. Alors pour ce qui est des secrétaires, c'est Gallieni, quand il est ministre de la guerre, qui, parce qu'on manque d'effectifs, chasse tous les hommes du ministère et de l'administration centrale pour les envoyer sur le combat, et il remplace ça par des femmes. Et pour aussi la fin de l'histoire des femmes pendant la guerre, notamment des femmes employées dans les usines de guerre. Je disais hier que le 5 août, on demande aux femmes de travailler. Le 13 novembre 1918, soit deux jours après l'armistice, Louis Loucheur, qui est ministre du Travail, signe un décret donnant aux femmes un mois pour quitter les usines.
Et certaines sans allocation.
Après, oui, elles sont payées au mois, jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la fin décembre. Au-delà, si elles restent, elles ne sont plus payées.
Sauf si elles sont dans des usines militaires.
Oui, non, c'est-à-dire qu'on a... On ferme la parenthèse très vite.